C'est écrit pour nous, une émission animée par Paul Calzada.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Heureux de t'accueillir à nouveau, Paul, dans notre studio de FM Évangile 66 pour ce rendez-vous trimestriel.
Merci Elios. En vérité, cette joie est partagée. Et je remercie bien sûr FM Évangile 66 de m'ouvrir son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
Le pasteur Paul Calzada, bien connu dans l'Hexagone et à l'étranger, est très apprécié pour la qualité de ses enseignements. Ses publications en sont une belle démonstration. C'est pourquoi il est de plus en plus sollicité pour des conférences dans divers milieux, pentecôtistes, baptistes, mais pas que. Ce jour, nous allons parler de l'autorité apaisante dans l'Église. Paul, c'est le titre que tu as donné à l'un des derniers fascicules parus aux éditions Esdras, Cise à Lézignan-Corbière. Peux-tu nous donner quelques précisions sur cette publication ?
Oui, avec joie. En écrivant ses pensées quotidiennes sur le thème de l'autorité dans l'Église, une seule préoccupation animait ma réflexion. Que dit la Bible à ce sujet ? En effet, la Bible reste le fondement à partir duquel il faut construire ou parfois reconstruire. Je ne prétends pas apporter des réponses absolues concernant la bonne ou la mauvaise manière d'exercer l'autorité, pas plus que d'avoir épuisé le sujet. Mais j'ai voulu essayer, en toute honnêteté, de m'affranchir du poids des habitudes et des traditions pour découvrir un espace de liberté et de vie où encore beaucoup reste à explorer.
Quand et comment peut-on se procurer ce nouveau fascicule ?
On peut commander à l'adresse suivante, éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan-Corbière. Mais on peut aussi commander à la CLC ou encore aux éditions Viens et Voix.
Et est-ce qu'on peut commander par mail ?
Oui, bien sûr. C'est une adresse toute simple, paul, P-A-U-L, @, lueur du matin tout attaché et lueur au pluriel, .fr.
Je répète l'adresse mail, paul@, lueur du matin, tout attaché et en minuscule. Et peut-on passer commande par téléphone ?
Oui, bien sûr, c'est possible, soit au 04 68 40 65 71, ou mieux encore au 06 09 13 22 13. Et si quelqu'un désire simplement des renseignements, il peut aussi appeler librement.
Ces choses étant précisées, entrons dans le vif du sujet. L'autorité apaisante dans l'Église. J'apprécie l'adjectif « apaisante ». Les Écritures font état d'autorité imposée, mais aussi d'autorité contestée, en fait des conflits de personnes. Et on voit aussi cela de nos jours. Pourquoi ?
Alors, l'Écriture nous enseigne clairement que la source première de l'autorité, c'est Dieu. Nous le lisons dans Romains chapitre 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Donc Dieu a voulu que dans l'univers, tout fonctionne sous le couvert du principe de l'autorité. Dieu est l'instigateur du principe de l'autorité. Voilà pourquoi il est dit que toute autorité vient de Dieu. Cependant, la Bible nous enseigne que l'une des créatures célestes des plus puissantes, Lucifer, ange de lumière, s'est rebellé contre Dieu. Et par sa rébellion, il a altéré ce principe de l'autorité. Le diable n'a pas supprimé ce que Dieu a établi, mais il a introduit dans le principe de l'autorité une pratique illégale, illégitime de l'autorité. Ainsi même, si dans son principe toute autorité vient de Dieu, cela ne signifie pas que toute autorité soit juste ou légale ou légitime. La plupart d'ailleurs des formes d'autorité qui existent dans le monde présent portent la marque plus ou moins forte de cette altération diabolique. Voilà pourquoi de nos jours encore, l'autorité exercée, loin d'être apaisante, est souvent source de conflits.
Les milieux religieux sont-ils exempts de tout usage malsain de l'autorité ?
L'histoire des religions, y compris au sein du christianisme, nous enseigne que cette altération touche également les systèmes religieux, quels qu'ils soient. Ils ont mis en place des formes d'autorité pyramidales, dominatrices, manipulatrices et contraignantes, qui sont à l'origine des excommunications, et plus graves, des guerres de religion, des croisades, des persécutions. En disant cela, il n'est pas question de jeter l'anathème sur toute forme d'autorité, mais de s'interroger sur ces deux points essentiels. Quelle autorité dirige ma vie ? Et bien sûr, quelle forme d'autorité je manifeste ?
Ces généralités étant posées, peux-tu nous donner un exemple concret de conflit de personnes dans la Bible ?
Il y en a plusieurs. Mais je retiens celui qui existait au sein de la communauté chrétienne de Corinthe. Dans cette église, les croyants discutaient entre eux pour savoir lequel des apôtres, Paul, Apollos, Céphas, était le plus important. Les croyants cherchaient à établir une hiérarchie entre les serviteurs de Dieu. Ils voulaient les positionner selon une échelle arbitraire. Lequel était le plus grand ? Quel était celui qui était supérieur aux autres ? Paul les ramène à la simple réalité que chacun de ces hommes n'est qu'un homme, lequel ne peut donner autre chose que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. La Bible en français courant dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres ? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu ? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu ? Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?
Il ressort donc qu'en fait, dans cette circonstance, le problème n'était pas entre les serviteurs de Dieu, mais provenait des disciples.
En effet, dramatiquement, les chrétiens de toutes origines, en quelque lieu que ce soit, ont cette lancinante tendance de vouloir comparer les hommes de Dieu, de vouloir les positionner à des niveaux d'autorité plus ou moins importants. Au fond, c'est comme si nous recherchions par cette fâcheuse attitude une forme de sécurité, de protection. Nous oublions que l'autorité que nous pouvons exercer, ou que certains peuvent exercer à un moment donné, ne nous place pas ou ne les place pas à un niveau supérieur des uns par rapport aux autres. Nous ne faisons que manifester la vie de Christ. Notre autorité n'est que l'expression de son autorité à l'instant T. Cette autorité n'est pas une possession qui nous appartient en propre. L'instant suivant, Christ peut choisir un autre homme pour exercer son autorité. Voilà pourquoi nous voyons que l'autorité chez les apôtres est fluctuante.
Peux-tu en donner un exemple ?
Nous le voyons avec Paul et Barnabas, tout comme avec Pierre et Paul. Retenons l'exemple de Pierre et de Paul, mentionné dans Galates, au chapitre 2, des versets 7 à 11. Je ne lis pas tout le texte, mais il est rappelé que bien des années en arrière, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ont donné à Paul et à Barnabas la main d'association. À ce moment-là, l'autorité était du côté de Céphas. Mais plus tard, lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, Paul lui résiste en face. L'autorité exercée par Pierre dans un premier temps ne plaçait pas Pierre dans une position d'autorité irrévocable.
Peut-on éviter ces conflits de personnes?
Dans l'absolu, ce n'est pas toujours facile. Mais l'humilité peut y aider. Gardons-nous de tout culte de la personnalité. Apprécions humblement les dons que Dieu nous a accordés aux uns et aux autres.
Je me souviens d'un pasteur, maintenant entré dans l'éternité, qui nous disait ceci, en évoquant ses débuts de prédicateur. Je cite, « Quand j'ai compris que l'autorité ne venait pas de la moustache, je l'ai rasée. » L'autorité viendrait-elle d'un titre, quel qu'il soit ?
Ça me plaît cette histoire de moustache. Certains pensent que l'autorité doit être exercée par les plus âgés, par des gens d'expérience qui ont traversé mille et une péripéties. Il y a du bon sens dans cette idée, mais en faire une règle absolue, c'est nier que l'autorité repose sur autre chose que l'âge et l'expérience. D'autres pensent que ce sont les titres qui confèrent de l'autorité. Certes, dans l'armée, l'autorité réside dans les grades supérieurs, comme le rappelle le centenier romain, venant demander à Jésus de guérir son serviteur dans Matthieu chapitre 8, verset 9. Mais dans l'Église, il n'en est pas ainsi. Comme le précise Jésus dans Matthieu chapitre 20, verset 26, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Le titre dont se prévalaient les apôtres était celui d'esclave de Jésus-Christ.
Après la pause musicale, nous évoquerons l'autorité hiérarchique. Restez avec nous. Puisque les apôtres se prévalaient du titre d'esclaves de Jésus-Christ, peut-on alors, ou pas, parler de hiérarchie ? L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Comment positionner concrètement ces services dans une église locale ?
Les deux images les plus utilisées par les apôtres pour parler de l'église sont l'image du corps et l'image de l'édifice. En parlant du corps, l'apôtre donne une énumération de quelques dons et ministères en les cataloguant, comme cela vient d'être souligné, ainsi, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Certains ont voulu voir dans ce texte la mise en place d'une hiérarchie cléricale et ils ont conclu qu'il était normal que l'autorité la plus grande soit exercée par le collège apostolique. Est-ce cela que les apôtres ont voulu enseigner ? Avant de nous prononcer, considérons un deuxième texte, dans lequel Paul parle de son ministère. Il dit ceci, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Ici, l'apôtre indique qu'en tant qu'apôtre, il a posé le fondement. Ce texte établit-il une hiérarchie entre les ministères ou indique-t-il un ordre logique dans une construction ? Nous savons que le premier à intervenir dans une construction, c'est l'architecte.
Donc, de quoi est-il question dans ces textes ? De hiérarchie ou de service ?
Mais le contexte est suffisamment clair pour nous indiquer que ces passages ne définissent pas une suite rationnelle de postes d'autorité, mais une suite rationnelle des dons nécessaires à la construction de l'édifice spirituel que représente l'Église. C'est à cause de notre arrière-plan religieux ou même social que nous voyons une hiérarchie dans la liste des dons que présente Paul dans ce texte de 1 Corinthiens 12, 28. L'interprétation naturelle et logique découlant du contexte, c'est que cette énumération de dons reflète avant tout une priorité logique des ministères nécessaires à la construction de l'Église, et certainement pas une hiérarchie. En effet, l'ordre indique le degré d'utilité du don pour l'édification de l'Église au fur et à mesure de sa croissance. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Pour la construction de l'Église ». Il faut avant tout le ministère des apôtres, car ce sont eux qui posent la fondation. De la même manière que les apôtres posent le fondement de l'Église, ils sont donc cités les premiers.
Pourrais-tu nous donner un exemple concret de ce que tu dis ?
J'aime bien les exemples concrets. On pourrait dire que pour édifier une maison, il faut premièrement un maçon qui pose les fondations et construit les murs. Deuxièmement, un charpentier qui pose la charpente et le toit. Troisièmement, un plaquiste. Quatrièmement, un électricien. Cinquièmement, un carreleur, etc. Le maçon n'est pas plus grand que l'électricien ou le menuisier qui viennent en deuxième ou en troisième position, etc. Chacun est un élément essentiel pour l'édification de l'ensemble. Le rôle des apôtres est prioritaire, mais cette priorité ne signifie pas primauté. Les ministères sont complémentaires, mais pas supérieurs les uns aux autres.
On a dit de l'apôtre Paul qu'il était autoritaire, misogyne, etc. Cependant, voici ce qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, je lis 2 Corinthiens 1, 24, chapitre 1er, verset 24. Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi.
L'apôtre Pierre, d'ailleurs, est sur la même longueur d'onde que Paul dans ce passage, si l'on peut dire cela. Voici ce qu'il est écrit, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3, dans la version du Semeur 2000. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. »
En effet, les responsables sont donc appelés à être des modèles. Jésus a dénoncé fermement l'attitude des chefs religieux parce qu'ils donnaient des instructions dont ils s'affranchissaient eux-mêmes. Du temps où l'on déchargeait les navires à dos d'homme, un prédicateur avait pointé ce problème du doigt avec cette formule, je cite, « Les chrétiens ne sont pas des dockers. » Comment peut-on amener les croyants à progresser dans la foi?
Jésus a dénoncé avec force l'attitude des chefs religieux de son temps. Il a dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent et ne font pas. » Matthieu 23, 2 à 4. Dans ce chapitre, Jésus dénonce l'hypocrisie des responsables religieux de son temps. Il dresse un véritable réquisitoire et conteste leur autorité. Ce genre de discours était de nature à provoquer des réactions négatives de leur part. L'Évangile nous rapporte que Jésus fut à maintes reprises accusé par ces hommes religieux. Ainsi, au moment de son arrestation, les accusations pleuvent de toutes parts, à tel point que Pilate s'exclame dans Matthieu 27, 13, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?» Il faut souligner que les accusations contenaient des parcelles de vérité, mais cette vérité était manipulée et déformée. En fait, ce que ces religieux ne supportaient pas, c'est que Jésus dénonçait leur orgueil, leur propre justice, leur autorité malsaine. Ils ne pouvaient supporter que Jésus leur dise « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Matthieu 21, 31. Ils n'appréciaient pas que soit remise en cause leur autorité religieuse.
J'ai bien observé cela. En effet, d'une manière générale, les responsables des systèmes religieux n'apprécient pas qu'on remette en cause leur autorité. Ils se prévalent de leur titre, président, secrétaire national, vicaire de Dieu, apôtre, prophète, pour imposer leur volonté. Toi, comment vois-tu la chose?
Lorsque l'un des membres du clergé, par souci de la vérité, veut remettre en question l'autorité du groupe clérical auquel il appartient, lorsqu'il dénonce certains règlements ou principes abusifs, aussitôt, une levée de boucliers se met en place avec une ligne de défense bien huilée. Les contre-vérités, les demi-vérités, les diffamations de toutes sortes sont lancées contre l'audacieux qui a osé s'élever contre le système en place. Alors il sera traité d'insoumis, de rebelle, d'hérétique, de perturbateur, d'un fou. On dira de lui qu'il est stressé à cause de problèmes personnels ou qu'il est frustré. un phénomène d'effet de groupe se met en place et la voix dissonante est étouffée.
Quelle attitude donc doit-on avoir face à ces dérives ?
Il y en a certainement plusieurs. Plusieurs que l'on peut entreprendre. Cependant, Jésus nous montre que face à ses accusateurs, il ne répond rien. Pourquoi ne cherche-t-il pas à les convaincre ? Pourquoi ne se défend-il pas ? Parce qu'il sait que ces gens-là ne se laisseront pas convaincre. Parlerait-il de ces miracles ? On lui répondrait que c'est par la puissance de Satan qu'il les opère. Parlerait-il de Dieu son Père ? On lui répondrait qu'il est orgueilleux et qu'il blasphème. Les fausses accusations sont difficiles à démontrer et à démonter face à un système religieux suspicieux et dont l'autorité est contestée. Jésus nous invite non à prendre la voie de la révolution, mais celle de la prière. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Si une autorité malsaine est exercée par un responsable religieux, prenez de la distance, comme le recommande Jésus. Gardez-vous des scribes. Luc 20, 45.
Existe-t-il un corps pastoral, comme on l'entend parfois ici et là ? Nous écouterons la réponse après la page musicale.
Dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix.
Je réitère la question restée en suspens. Existe-t-il un corps pastoral, comme on l'entend parfois ici et là ?
Un jour, j'ai décidé de rechercher dans la Bible quel sens il fallait donner à l'expression « corps pastoral ». Cette formule, j'ai eu l'occasion de l'entendre dans la bouche de mes collègues pasteurs, et d'ailleurs, je l'ai aussi moi-même utilisée dans mes jeunes années. Hormis dans l'Ancienne Alliance, où il existe un ensemble sacerdotal clairement défini, dans la Nouvelle Alliance, le mot « clergé », attribué à une catégorie restreinte de personnes, n'existe pas. Par contre, le mot grec qui est utilisé pour désigner la prêtrise ou le sacerdoce, c'est le mot « hiéreus ». Il est intéressant de remarquer qu'il n'est jamais employé pour désigner les dirigeants ecclésiastiques, mais que ce mot se réfère au peuple de Dieu dans son ensemble, comme nous le voyons par exemple dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous êtes un sacerdoce royal ». Nous le retrouvons bien sûr dans l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 6.
Donc dans l'Église, tous les chrétiens sont sacrificateurs ou prêtres, hiéreus. Mais alors, où sont les laïcs ?
l'opposition laïque et clergé crée une division artificielle qui n'a aucun fondement biblique. Certains commentateurs de l'Écriture voient ce terme de laïque dans le mot grec « laos », lequel est cité 133 fois dans le Nouveau Testament et toujours en relation avec le peuple de Dieu. Ce mot « laos » est traduit les 133 fois par le mot « peuple ». Il désigne le plus souvent le peuple d'Israël, la multitude des Juifs. Dans les Épîtres, l'apôtre Paul et ses collaborateurs utilisent ce même mot pour désigner les croyants, comme nous le voyons dans Romains, chapitre 9, verset 25, où il dit « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée », ou encore dans Tite, chapitre 2, verset 14, « et de se faire un peuple qui lui appartienne ». Il faut souligner que dans ce passage, Paul se met dans ce peuple en utilisant le pronom « nous ». Ce mot ne fait donc pas référence à une partie du peuple qui serait face à l'équipe apostolique, mais il fait référence à l'ensemble des croyants, quel que soit leur ministère ou leur service.
Alors, à la question posée au début, y a-t-il un corps pastoral dans l'Église ? Quelle est ta conclusion ?
Eh bien, la conclusion est simple. À la question posée, il n'y a qu'une seule réponse biblique. Il n'y a qu'un seul corps. C'est le corps de Christ. L'Église, dans sa totalité, dans lequel il n'y a que des serviteurs et des servantes, tous exerçant leur sacerdoce, selon l'équipement que l'Esprit de Dieu leur a confié.
Une autorité est tout de même nécessaire. Alors, d'où doit-elle venir ?
Une demande particulière a été adressée à Jésus par la mère de deux de ses disciples, la maman de Jacques et de Jean. Elle pense que Jésus va bientôt établir le royaume messianique. Alors elle demande une place d'honneur pour ses deux fils. Aussitôt, les autres disciples en prennent ombrage. C'est alors que Jésus va leur faire cette déclaration. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est dans Matthieu, chapitre 20, les versets 25 à 26. Dans ce passage, comme dans d'autres d'ailleurs, Jésus condamne le principe dominateur du système dans lequel les sociétés humaines fonctionnent. Jésus condamne non les hommes, mais le système hiérarchique qui conduit des chefs à dominer, contrôler, humilier, asservir. Jésus condamne le principe qui consiste à communiquer l'idée que le pouvoir et l'autorité coulent d'en haut et que chaque niveau social doit obéir aux ordres des niveaux supérieurs. Jésus souligne que ce principe est celui qui régit les nations, le monde, les institutions militaires et gouvernementales. Cependant, Jésus souligne que dans le fonctionnement du royaume de Dieu, il ne doit pas en être de même. Il dit ceci, il n'en sera pas de même parmi vous. Autrement dit, dans le royaume, dans l'Église, il n'y a pas de structure hiérarchique dominatrice.
Donc, selon ce que dit Jésus, l'autorité ne vient pas d'instances humaines supérieures. Mais on constate que ce modèle hiérarchisé a été adopté par la plupart des institutions religieuses. Mais pire encore, par la majorité des églises et dénominations chrétiennes, qui est en mesure d'exercer une forme saine d'autorité.
Dans le royaume de Dieu, il convient, ou il conviendrait, que l'autorité soit reconnue chez ceux dont le caractère ressemble à celui du Seigneur, humble et doux. Jésus les décrit comme des serviteurs. Il emploie un mot fort qui est le mot esclave. Qu'il soit un serviteur. Et il ajoute aussi qu'il soit comme le plus petit, donc comme des enfants. Dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure par une réelle humilité et par un esprit de service dévoué et désintéressé. L'autorité hiérarchique est la caractéristique du monde. Elle se fonde sur la position, le titre et le rang. L'adoption de ce principe d'autorité hiérarchique par les églises est donc totalement en contradiction avec les enseignements du Seigneur qui a dit « Le plus grand parmi vous sera votre esclave ou serviteur ».
Comment donc doit s'exercer l'autorité dans l'Église ?
Une réponse lapidaire consiste à dire que l'autorité dans l'Église, c'est avant tout l'autorité de l'Église. Pas d'autorité, pas l'autorité d'un clergé qui se placerait au-dessus de l'Église, mais l'autorité qui est exercée par l'Église et à laquelle chaque serviteur se soumet.
Peux-tu nous donner un exemple biblique ?
L'un des exemples les plus parlants est celui que nous trouvons dans le livre des Actes, quand les apôtres se sont penchés sur la question de la circoncision. Nous lisons cela dans Actes chapitre 15. L'Église primitive a opté pour une certaine ligne de conduite. Cette décision fut prise après un bref plaidoyer de l'apôtre Jacques. Après ce court plaidoyer, nous voyons que la décision ne lui incombe pas. La décision fut prise collectivement par les apôtres, les anciens et toute l'Église. Il convient de souligner que tous les chrétiens participent à la décision finale prise par l'Église. C'est l'Assemblée tout entière qui prend les décisions et non un ensemble ecclésiastique, qu'il soit apostolique ou pastoral. Dans ce cas particulier, nous voyons que la décision ne fut pas prise sur une base pyramidale, par exemple les apôtres dictant la règle à suivre. Pas plus que sur une base démocratique, il n'y est pas fait mention d'un vote, mais sur le principe d'un consensus général. Tous les croyants étaient concernés et tous exercèrent l'autorité qui était la leur pour prendre une décision commune. L'autorité ne résidait pas dans les apôtres seuls, ni dans les anciens seuls, mais dans toute l'assemblée. Ils étaient tous ensemble, tous responsables, tous serviteurs et tous décisionnaires. L'Église, avec la totalité de ses membres, prit une décision qui fit autorité quant à la manière d'agir envers les païens qui devenaient chrétiens. L'Église était assez mûre pour assumer cette responsabilité. Les ministères divers et nombreux qui œuvraient à Jérusalem, apôtres et anciens, n'ont pas empêché l'ensemble de l'Église d'exercer son autorité.
J'aime bien la conclusion de cette affaire par la mention qui en est faite en ces termes. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Actes chapitre 15, versets 22 et 23.
D'ailleurs, on peut ajouter que si l'autorité est uniquement détenue par un pasteur, ou même par une équipe de responsables, aussi riche que l'était celle de l'Église de Jérusalem, alors le ou les responsables maintiennent l'Assemblée dans un état permanent d'infantilisme spirituel. En effet, lorsqu'on ne permet pas aux croyants de remplir leur part d'autorité, lorsque leur responsabilité leur est ôtée, on les rend faibles, dépendants du ou des pasteurs, et donc incapables de grandir en maturité spirituelle. Ce faisant, on usurpe l'autorité qui appartient à l'Église tout entière. Lorsqu'on enlève à chaque croyant sa part d'autorité, on étouffe la pratique de son propre sacerdoce.
Paul, un mot de conclusion sur l'autorité apaisante dans l'Église.
Mais en conclusion, je dirais que pour l'autorité, pour qu'elle soit apaisante, elle doit s'exercer avec les dispositions de cœur qui étaient à celles du Seigneur, comme je l'ai déjà souligné, l'humilité, la douceur et le don de soi.
Merci, Pasteur Paul, pour cet enseignement. Je rappelle que tu as traité ce thème dans une récente publication des éditions Esdras. Bien-aimés à l'écoute, nous vous disons à bientôt pour une nouvelle interview. Amen.